journal, Marion Lourd, bonjour.
Bonjour Camille, bonjour à tous. Bienvenue dans le 13-14 de France Inter à la une aujourd'hui. Ils font leur retour sur les Champs-Élysées après l'épidémie de Covid. 5000 soldats pour le défilé du 14 juillet, non masqués car testés et vaccinés. Nous serons dans le défilé et à ses abords dans le public obligé, lui, de présenter un pass sanitaire. À 13h30 sur ce sujet, une armée équipée en drones et nouvelles technologies mais prête aussi à aller sur le terrain. À quoi ressemblent nos forces militaires aujourd'hui? Le chercheur Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, est avec nous pour en parler. Vos questions 01 45 24 7000. Après les mots, le serrage de vis annonce présidentielle lundi pour contrer la reprise de l'épidémie. Passage aux actes lundi. Avec un projet de loi attendu pour le non-respect du pass sanitaire élargi et des sanctions à la clé. Hélène Philippe.
Oui, grosse pression sur les commerçants, hôteliers, responsables de centres commerciaux. Ils ont l'obligation de contrôle de leurs clients, de leurs salariés. En cas de manquement, ils risquent 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement.
Et le détail dans ce journal. Big Bang Vert, promis à Bruxelles, des mesures radicales annoncées aujourd'hui pour réduire les gaz à effet de serre, taxes aux frontières, marché carbone, on fera le point. On entendra aussi l'inquiétude des acteurs du marché de l'automobile. Nous serons en Afrique du Sud, sixième jour d'émeute et des dizaines de morts. Nous verrons aussi avec les nominations aux Emmy Awards que la télévision n'est plus vraiment ce qu'elle était. Encore de la pluie, aujourd'hui risque d'inondation dans plusieurs départements et les feux d'artifice prennent l'eau.
Tout est bâché, tout est plastifié, donc on peut quand même tirer le feu d'artifice. Le gros souci pour nous, c'est le public.
Reportage à venir de la Saule pour nous consoler de ce mauvais temps. Al Green dans C'est une chanson dans la deuxième demi-heure du 13-14.
France Inter. Le 13-14.
C'est le retour d'une tradition française mise en sourdine par l'épidémie de Covid l'an dernier, le défilé du 14 juillet ce matin. 5000 participants sur les Champs-Élysées à Paris, à pied, à cheval, en avion, des appareils peints d'ailleurs aux couleurs du Petit Prince pour les 75 ans du livre de Saint-Exupéry. Cortège de militaires non masqués car largement vaccinés et testés pour les autres. Défilé comme avant le virus ou presque car les spectateurs, eux, devaient être masqués et déjà présenter un pass sanitaire. Comme Bernard, rencontré sur les Champs-Élysées par Valentin Dunat.
C'est la première fois que je viens effectivement depuis 20 ans. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai un garçon qui a 9 ans, donc j'avais envie qu'il profite de l'événement. Et puis j'ai jamais eu l'occasion, estimant qu'il y avait toujours trop de monde. Et je vous avoue que peut-être via la crise sanitaire, je me suis dit qu'il y avait le pass qui était obligatoire, qu'il y avait moins de touristes dans la ville, qu'en plus il allait faire moins beau, et donc il allait y avoir moins de monde, et effectivement, ça nous a permis d'être là, et c'est vraiment magnifique, comme tous les ans, parce que je le regarde à la télé jusqu'à présent. Voilà, c'est un événement aussi fédérateur pour les Français, après tout ce qu'on a vécu, de se rendre compte qu'effectivement, voilà, la France reste un pays magnifique.
Bernard avec Valentin Dunat pour France Inter. Voilà pour le public. Côté officiel pour la dernière fête nationale du candidat Macron, le retrait prochain des troupes françaises au Sahel était bien visible dans le défilé avec en tête de cortège la force Takuba. Bonjour Nathalie Hernandez.
Bonjour Marion.
Vous avez suivi ce défilé sur Inter, hein?
Oui, tout à fait. 8 nations étaient à l'honneur en tête du défilé à pied. Marion, aux côtés des Français, des soldats d'élite tchèques, estoniens, italiens, suédois, portugais, néerlandais et belges. Le visage caché, eux, car ces hommes ont pour habitude d'être très discrets. Ils sont actuellement 600 au Mali pour entraîner, conseiller et accompagner au combat les FAMA, les forces armées maliennes. Et depuis un an, ils ont déjà mené ensemble de nombreuses opérations qui ont permis la capture et la neutralisation de lieutenants des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Et c'est en partie sur leurs épaules que reposera la suite des missions militaires françaises au Sahel après la réduction de moitié des effectifs de Barkhane. L'objectif est en effet l'autonomie des armées sahéliennes afin qu'elles assurent elles-mêmes leur sécurité. La Roumanie et le Danemark, Marion, doivent être les prochains à rejoindre Takuba.
Et autre événement marquant, Nathalie, pour cette fin de quinquennat, le changement de chef d'état-major, dernière participation pour le général François Lecointre.
Oui, le général Lecointre fera son adieu aux armes la semaine prochaine. C'est lui qui avait choisi de partir pour éviter toute politisation de sa fonction avant l'élection présidentielle l'année prochaine. Hier, Emmanuel Macron a tenu lors du traditionnel discours armé, a remercié chaleureusement son chef d'état-major pour sa loyauté et son engagement à l'égard des armées et de la nation au cours de ces 4 années. C'est l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre, le général Thierry Burkhard, qui lui succédera à compter du 21 juillet.
Nathalie Hernandez, spécialiste défense en direct pour France Inter, merci à vous. La fête se poursuit ce soir avec le concert au Champ de Mars à Paris, l'Orchestre National de France, le chœur et la maîtrise de Radio France et des invités prestigieux comme le violoniste Renaud Capuçon ou le trompettiste Ibrahim Malouf. Soirée à suivre sur France Inter dès 21h avec Anna Sigalevitch. À suivre aussi, mais dès 13h30, le chercheur Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, notre invité pour parler modernisation de l'armée, drones et nouvelles technologies. Vos questions 01 45 24 7000. Autre tradition du 14 juillet, la promotion de la Légion d'honneur. Le philosophe tout juste centenaire Edgar Morin, élevé à la dignité de Grand Croix, plus haute distinction de cette décoration. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, lui devient commandeur. L'actrice Laetitia Casta et le journaliste Jean-Pierre Pernaut deviennent chevaliers comme le vainqueur du Vendée Globe, Yannick Besta et le skipper Jean Le Cam. Aussitôt dit, aussitôt fait, après les annonces présidentielles de lundi sur la vaccination obligatoire des soignants et l'extension du pass sanitaire, on passe au concret avec le projet de loi sur la table du Conseil des ministres lundi prochain. Vous l'avez consulté pour France Inter. Bonjour Hélène Philippe.
Bonjour.
Et pour garantir l'usage du pass sanitaire étendu, le texte prévoit des sanctions.
Alors il y a d'abord les usagers, les clients sans pass sanitaire, ce sera 135 euros d'amende. Mais il y a aussi les entreprises, restaurants, centres commerciaux, compagnies ferroviaires. Elles ont une obligation de contrôle de leurs clients, mais aussi de leurs salariés. En cas de manquement, d'absence de contrôle, elles risquent une amende de 45 000 euros et d'1 an d'emprisonnement. Et même en dernier recours, une fermeture de leur établissement. Pour faciliter la vaccination de leurs salariés, les employeurs vont devoir leur accorder une autorisation d'absence rémunérée. C'est bien stipulé dans le projet de loi qui a été transmis au Conseil d'État. Ils ont jusqu'à fin août, finalement, ces salariés, avant d'être soumis au pass sanitaire, pour leur laisser le temps et leur épargner des tests PCR tous les 2 jours cet été. Mmh. Si le salarié, à la fin du mois d'août, ne présente pas de pass sanitaire, son contrat de travail pourra être suspendu jusqu'à 2 mois, sans qu'il soit donc payé. Au-delà de ce délai, une procédure de licence pourrait être enclenché.
Et une autre mesure dont on parlait depuis longtemps, le non-respect de l'isolement en cas de Covid pourrait être sanctionné.
Alors il y a déjà des contrôles sur l'isolement qui est demandé aux personnes qui reviennent de pays ou de départements d'outre-mer jugés à risque, jusqu'à 1500 euros d'amende en cas de non-respect dans ces circonstances. Ce qui est nouveau, ce sont donc les contrôles et les contraventions envisagées pour les personnes qui n'ont pas quitté l'Hexagone. Notification d'isolement de 10 jours pour toute personne infectée et des contrôles aléatoires menés ensuite par la police et la gendarmerie.
Hélène Filet du service économie de France Inter, merci à vous. Il fallait au moins ça, sans doute, selon l'exécutif, pour contrer la progression du variant Delta. Il a remonté des contaminations 7000 en 24 heures du jamais vu depuis début juin. Couvre-feu à 23 heures rétabli en Corse, dans le secteur de Balagne, avec jauge à 50% pour les bars et restaurants. Seuil d'alerte franchi en Occitanie, 51 cas de Covid pour 100 000 habitants. Les Pyrénées-Orientales, surtout, sont touchées, au point que la ville de Canet-en-Roussillon applique même le pass sanitaire de façon anticipée. Reportage Sandrine Eto'o à Andeg.
Messieurs-dames, le flash code à gauche et ceux qui n'ont pas de flash code à droite.
Deux files donc pour assister au concert au Théâtre de la Mer sur la plage de Canet-en-Roussillon. Le pass sanitaire est appliqué avec une semaine d'avance.
Normalement c'est le 21 juillet, le président l'a dit, mais là on teste un peu avec la population.
Marina coordonne la sécurité.
Parce que les gens ils ont peur, les clusters ça s'enflamme.
C'est rassurant, c'est bien.
Car la circulation fulgurante du virus dans les Pyrénées-Orientales inquiète cette retraitée.
C'est grave, mais on arrivera à en sortir que par le vaccin.
Moi, c'est une situation que je prends très à cœur. Et bien sûr, j'ai fait les 2 vaccins. Oui.
Une solution qui revient dans la bouche de la plupart des spectateurs.
Moi, je me suis fait vacciner pour protéger mes grands-parents.
Ma fille a 16 ans et elle s'est fait vacciner.
Alors, on n'a pas le choix, donc il faut être d'accord.
Mais là, c'est pas obligatoire.
Ah si, si, sinon on peut rien faire.
Si on m'interdit d'aller dans des centres commerciaux ou quoi, je ferai mes courses au drive et ça sera tout. Et moi, je me fais pas vacciner comme ça sans savoir ce qu'ils vont me mettre dans moi ou quoi.
C'est sûr. Et c'est facile de se faire vacciner, répète le docteur Jean-Louis Boll.
Bienvenue au centre de vaccination de la gare de Perpignan.
Où le vice-président de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Orientales ouvre aujourd'hui un nouveau centre de vaccination sans rendez-vous.
Pour aller encore plus chercher les gens au plus près, il faut dire qu'on n'est pas les seuls. sur le littoral. Mes confrères vont aller dans des campings pour essayer de motiver les gens et les faire venir. Il y a eu des centres éphémères faits à droite et à gauche. Tout ça pour essayer d'accélérer la vaccination.
C'est une course contre la montre.
Hugo Maître, responsable du service de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Perpignan.
Pointe l'infographie sur son ordinateur et le département est en rouge écarlate.
C'est 155 pour 100 000, donc des nouveaux cas de contamination. Une incidence beaucoup plus importante chez les 20-30 ans qui est de l'ordre de 450 pour 100 000. C'est les vacances, la population du département est multipliée par 2, la proximité de l'Espagne qui, elle, a vu son épidémie augmenter il y a 15 jours, 3 semaines. Donc on a les conséquences, en tout cas en partie, de gens qui ont eu des contacts réguliers avec l'Espagne récemment.
Il craint un afflux important de patients à l'hôpital d'ici 15 jours.
Et face à la reprise de l'épidémie, il y a les restrictions et la vaccination. La plateforme de rendez-vous Doctolib est toujours prise d'assaut. Au dernier pointage, plus de 2 millions de Français ont cliqué depuis lundi soir pour décrocher une injection. Depuis lundi soir, cependant, le gouvernement a un peu adouci son propos. Finalement, le pass sanitaire ne sera exigé, on le disait un peu plus tôt, pour les salariés des commerces et de la restauration qu'à partir de fin août. Même chose pour les 12-17 ans, très peu vaccinés pour le moment. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier soir. Le délai pour obtenir le pass sanitaire va lui passer en France de 2 semaines à 1 seule. Véronique Julia, il ne s'agit pas seulement de calmer les esprits, la décision a aussi des fondements scientifiques.
Déjà, il faut savoir que le variant Delta, désormais dominant en France, ne change pas la donne sur les délais d'efficacité du vaccin. Le vaccin a sans doute une capacité un peu plus limitée à neutraliser ce variant, mais à peine. Les vaccins ARN, en tout cas, restent très efficaces. Et pour les délais, donc, rien ne bouge. L'immunité, on le sait, se construit progressivement. La première dose devient protectrice en 10 à 10 jours. Elle protège à plus de 50%, mais c'est la deuxième dose qui booste pour de bon la réponse immunitaire. Pour le vaccin Pfizer, le plus donné en France, l'efficacité de 95% a été évalué au bout de 7 jours. Scientifiquement, donc, les spécialistes n'y trouvent rien à redire. On est dans les clous. Olivier Véran, hier, a d'ailleurs justifié sa décision en disant qu'elle avait été validée sur le fond par Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, mais aussi par Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Il a toutefois reconnu que la position française n'est pas celle de l'Europe qui donne le pass, elle, au bout de 2 semaines. Mais il est vrai que l'Europe a raisonné sur tous les vaccins actuellement disponibles et il est vrai que certains, comme le Janssen, ont vu leur efficacité évaluée, non pas sur 1 semaine, mais plutôt sur 14 jours.
Et une première dose de vaccin Pfizer faite aujourd'hui, prise aujourd'hui, ça veut dire qu'on a son pass sanitaire le 11 août prochain. Covid à l'étranger, la pression européenne a payé. Malte garde finalement ses frontières ouvertes aux non-vaccinés, annonce à quelques heures de l'entrée en vigueur de la mesure. Mais l'île instaure une quarantaine obligatoire qui pourrait aller jusqu'à 14 jours. Les derniers éléments s'affinent en ce moment même à Bruxelles, mais la Commission européenne doit annoncer aujourd'hui, je cite, un Big Bang législatif sur le sujet du climat. À l'horizon toujours, cet objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, moins 55% d'ici 2030 par rapport aux années 90. Pour y parvenir, tout un arsenal de mesures. Vous suivez ce dossier pour France Inter à Bruxelles. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Les 27 devraient enfin mettre en place le principe pollueur-payeur aux frontières de l'Europe, une sorte de taxe carbone dont on parlait depuis longtemps.
Oui, nos industries européennes vont avoir dans les années qui viennent de plus en plus de contraintes environnementales. Alors pour éviter qu'elles n'aient envie, par exemple, de délocaliser en Chine ou en Inde leurs usines, eh bien, on va adapter ce principe du pollueur-payeur déjà appliqué au sein de l'Union aux entreprises qui importent en Europe leurs produits. Les secteurs concernés sont précis, l'acier, les engrais ou encore le ciment, des secteurs en fait à empreinte carbone très élevée. L'idée, c'est d'inciter les pays non européens à verdir eux aussi leurs pratiques. Et puis, parallèlement, mais de façon extrêmement progressive, les quotas gratuits de droits à polluer distribués actuellement aux industries européennes de ces secteurs devront disparaître, car leur raison d'être, c'est d'éviter une concurrence déloyale avec les entreprises étrangères. Alors, si ces dernières se mettent au vert, eh bien, ils n'ont plus d'utilité.
Et voilà pour le certain. Plus controversé, l'extension du marché carbone, les permis de polluer qui s'achètent et se revendent, extension au secteur du transport et du chauffage, un sujet extrêmement délicat, Angélique, car il peut avoir des conséquences pour les ménages.
Oui, car ça peut renchérir en fait le coût de l'essence et du chauffage et avoir un possible effet gilet jaune ou bonnet rouge à l'échelle de l'Europe, s'inquiète le président de la commission environnement, l'eurodéputé Pascal Canfin, car ça touchera aussi les poids lourds. Mais le secteur routier, c'est le seul secteur dont les émissions de CO2 ont augmenté ces dernières années, plaide la présidente de la commission Ursula von der Leyen dans un entretien au Monde. Pour soutenir financièrement les ménages impactés et éviter cet effet, elle propose en parallèle la création d'un fonds social climat qui sera alimenté par ses droits à polluer. Une proposition politiquement explosive pour de nombreuses ONG, eurodéputés, Capital également. Proposition qui, si elle n'est pas amendée, passera sans doute avec difficulté le cap de la négociation avec les États membres et le Parlement.
Angélique Bouin en direct de Bruxelles pour France Inter. Parmi les autres mesures, une taxe sur le kérosène pour les vols aériens au sein de l'Union et la fin de la vente des voitures thermiques d'ici 2035 ou 2040. Ça sera précisé dans la journée. Il s'agit pour le moment d'un projet de législation de la Commission. Encore 2 à 3 ans de négociations entre États membres pour passer à l'application. N'empêche, que pense de cette nouvelle feuille de route de la Commission les premiers concernés? Le MEDEF, syndicat patronal, est très favorable à la taxe carbone aux frontières. Mais il surveille de près ses contours. Fabrice Le Sachet, vice-président et porte-parole du MEDEF.
Pourquoi on est pour? Parce qu'on souhaite qu'il y ait une ambition pour l'économie française et l'économie européenne en matière de transition climatique. Et pour ça, il faut qu'il y ait un prix du carbone élevé. Mais on ne peut pas avoir un prix du carbone élevé chez nous et en même temps avoir des importations qui ne sont pas soumises aux mêmes règles. Donc il faut ce mécanisme d'ajustement aux frontières européennes. Par contre, il faut faire attention dans l'application. Aujourd'hui, il y a 2 secteurs qui sont volontaires. On est en train de l'étendre sans concertation à certains autres secteurs. Et ces secteurs risquent de perdre ce qu'on appelle les quotas CO2 gratuits, les allocations gratuites, alors même qu'ils ont besoin d'une période transitoire pour faire les investissements bas carbone. Par ailleurs, si certains pays tiers prennent des réglementations de façade pour contourner cette taxe carbone aux frontières européennes, on n'aura pas rempli l'objectif. Donc le diable se cache dans les détails et il faut être très vigilant pour qu'on réussisse cette transition bas carbone.
Une autre mesure qui fait débat, donc, c'est cette interdiction de la vente des voitures thermiques dès 2035 ou 2040. Elle inquiète la filière automobile française. 100 000 emplois seraient potentiellement menacés. Avec nous, un bon connaisseur du dossier, Gabriel Artero, président de la CFE-CGC Métallurgie. Il a participé cette semaine à la réunion avec le chef de l'État sur ce sujet. Bonjour.
Bonjour.
100 000 emplois en jeu, la menace, elle est réelle, concrète, c'est vraiment le vrai chiffre?
Alors c'est un chiffre en tendanciel, bien sûr. C'est si l'on suit la trajectoire actuelle, nous avons perdu à peu près 70 000 emplois entre 2008 et 2018 dans cette filière, le cœur de la filière, c'est-à-dire les constructeurs, les équipementiers. Si on suit cette tendance, eh bien c'est déjà moins 30 à moins 35 000 d'ici 2035. Et le scénario catastrophe serait, au-delà de 2030, la perte de plus de 100 000 emplois. Au fond, ce qui se joue, c'est: voulons-nous que la France reste une grande nation de la construction automobile et des nouvelles mobilités, ou est-ce que on risque d'être sorti du jeu, y compris en Europe?
Et ce n'est pas compensé par les créations d'emplois dans la filière électrique ou hydrogène?
Non, évidemment, le delta sera négatif, quels que soient les nouveaux emplois qui seront créés autour des gigafactories, autour de l'électronique de puissance, autour du développement de certaines technologies comme l'hydrogène. Pour l'instant, le solde nous apparaît négatif. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous pourrons faire? Qu'est-ce que la puissance publique doit faire à nos côtés pour que nous puissions réussir avec, je dirais, une acceptation sociale suffisante pour arriver à réussir cette transition? C'est tout là l'enjeu des 10 prochaines années.
Le chef de l'État promet 8 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance. Déjà, c'est suffisant pour effectuer la reconversion dont vous parlez?
Écoutez, la PFA a chiffré à 17 milliards d'investissements nécessaires
la plateforme automobile.
Voilà, la plateforme automobile. Nous partageons cet objectif et la volonté d'aller chercher quasiment le tiers par l'aide publique. Donc bon, on y est, 8 milliards, ou c'est peut-être même un peu plus, presque la moitié. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. En tout cas, il est clair que la filière seule n'y parviendra pas. Et au fond, c'est une course de vitesse qui est en train de se jouer. C'est vraiment une course de vitesse avec les futures normes Euro 7 pour nous adapter à cet environnement de contrainte. Je dis de dire que l'industrie n'est pas le problème, c'est la solution, pour peu qu'on lui laisse et les moyens et le temps de le faire.
Très rapidement, vous réclamez un sursis pour la filière hybride. Il faut combien de temps, en deux mots?
Je sais pas vous le dire, mais il est clair que l'hybride, c'est aussi du thermique, forcément, hein, puisque comme son nom l'indique, c'est de l'électrique et du thermique. Mmh. Donc le risque de sortir trop rapide pourrait coûter très très cher, notamment aux constructeurs français. Bon, je sais que Carlos Tavares s'est prononcé sur
le patron de Stellantis.
Nous pouvons que le suivre parce que évidemment, ce sont des investissements lourds et que nous ne saurions amortir, c'est évident, au sein de la filière.
Gabriel Artero de la CFE-CGC Métallurgie sur France Inter, merci à vous. Ces naufrages dramatiques nous semblent presque habituels. Des migrants qui trouvent la mort en Méditerranée alors qu'ils tentent d'atteindre les côtes européennes. Mais le chiffre publié aujourd'hui par l'Organisation internationale pour les migrations ne peut que frapper. 1146 personnes mortes en mer depuis le début de l'année, deux fois plus que sur la même période l'an dernier. L'OIM appelle les États à ouvrir des voies migratoires officielles pour éviter ces naufrages et à multiplier les navires de sauvetage. Son porte-parole en Italie, Flavio Di Giacomo.
Dans la Méditerranée centrale, qui est la plus dangereuse des routes migratoires, on a enregistré plus de 740 personnes qui sont décédées dans la mer, partie de la Libye ou de la Tunisie. Il n'y a pas un système de sauvetage, de recherche et de secours dans les eaux internationales. Donc, c'est plus dangereux de traverser la Méditerranée, car il faut beaucoup de temps pour ces migrants qui lancent des SOS pour être sauvés. Ces chiffres sont sous-estimés. Il est très probable qu'il y a beaucoup plus de naufrages qu'on pense. Il y a beaucoup moins de bateaux de sauvetage, donc il y a moins de témoins dans la mer. L'Europe est pratiquement fermée depuis plusieurs années, en fait. Donc il faudrait commencer à gérer la migration avec une politique balancée de fermeture, mais aussi d'ouverture. Si on ferme les portes de l'Europe, les personnes vont arriver irrégulièrement. Ils vont voyager avec des organisations criminelles obligées à utiliser des embarcations totalement dangereuses et donc le voyage est très dangereux.
Le porte-parole de l'OIM pour l'Italie, joint par Rémi Brancato pour France Inter. À l'étranger encore, le pape François quitte l'hôpital de Gemelli à Rome. Il était en convalescence depuis 10 jours et son opération du côlon et devrait donc rejoindre le Vatican. Un sixième jour de violence en Afrique du Sud. Les manifestations et les pillages continuent depuis vendredi et l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma pour outrage à la justice, l'étincelle sur fond de désespoir économique et de crise sanitaire. L'armée a dû intervenir. Déjà plus de 1200 personnes arrêtées autour de Johannesburg et d'Urban. 72 personnes sont mortes. Par endroits, des groupes d'autodéfense se sont formés. Dans la campagne, les habitants en armes sont plus nombreux que la police. Reportage itinérant de Romain Chanson, près de Durban.
Des tas de sable et de gravier bloquent toutes les routes qui mènent à Kokstad. Des hommes en armes filtrent les entrées de cette petite ville. Ils sont mobilisés depuis l'aube.
Ce matin, nous, les habitants, avons pris la décision de fermer notre ville pour la sauver. On inspecte chaque voiture et on décide si oui ou non ces passagers représentent une menace. La police n'est pas assez nombreuse pour faire ce travail. Cette démonstration de force est nécessaire. Environ 60% des personnes ici sont armées.
Underberg, nouveau contrôle. Ici, les hommes portent les munitions en bandoulière. Les fusils ont des lunettes et les plus jeunes serrent des battes de baseball. Une partie de la ville a été attaquée.
Plusieurs magasins ont été pillés et certains incendiés. Vous avez le commerce d'alcool là-bas et le magasin de vêtements. Les gens en ont marre de tout ça. Peu importe d'où ils viennent, qui ils sont, on doit veiller sur eux. C'est leur propriété privée et ce sont leurs biens qui ont été incendiés ou volés.
Underberg est la dernière ville à tenir debout, nous lance un homme en armes. Quelques kilomètres plus loin, nous croisons des jeunes garçons avec des sacs de supermarché le long de la route. La ville suivante a été pillée. Sur les routes du KwaZulu-Natal, Romain Chanson pour France Inter.
À Nice, 5 ans après, le souvenir des 86 morts est toujours là et les plaies encore vives pour leurs proches. Pour les 400 blessés et tous les autres traumatisés. Le Premier ministre est attendu aujourd'hui à Nice pour commémorer l'attentat du 14 juillet 2016. Ce camion qui avait fauché les passants sur la promenade des Anglais. 83 millions d'euros d'indemnités ont été versés aux victimes. Les associations militent pour qu'un monument soit installé sur la promenade des Anglais. Cérémonie donc cet après-midi que nous vous raconterons ce soir dans les journaux de France Inter. La télé est-elle encore vraiment de la télé? La question se pose avec ses nominations pour les Emmy Awards. récompense américaine du monde de la télévision, car c'est le streaming qui prend la tête de la course. The Crown, par exemple, et la réunion de Friends sur Netflix. 130 nominations pour HBO et sa plateforme HBO Max, 129 pour Netflix, 71 pour Disney+, Alexandra Hakoun.
Pas d'équivoque possible, les géants du streaming ont pris le pouvoir sur les Oscars de la télévision. Un bouleversement à marche forcée qui n'a pas réussi à NBC et sa plateforme Peacock, pourtant lancée cette année. Seulement 2 nominations. La grande favorite, toutes catégories confondues, c'est elle.
Avec le temps, Diana abandonnera son combat et elle pliera. Comme ils le font tous.
La saison 4 de la série sur les frasques des Windsor, The Crown sur Netflix, 24 nominations et une bataille en vue entre Olivia Colman et Emma Corrin pour l'Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique, dans un style totalement différent de Mandalorian dérivé des Star Wars sur Disney+.
Il est regrettable que votre peuple ait souffert autant.
24 nominations également, juste devant les super-héros de WandaVision et la dystopie toujours aussi forte de Handmaid's Tale. Mais la vraie surprise, c'est la présence dans la sélection du prince Harry et de Meghan Markle pour leur interview débridée sur CBS avec la papesse de la télé américaine Oprah Winfrey.
Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
What? 17 millions de téléspectateurs. La réalité supplantera-t-elle la fiction? Réponse le 19 septembre prochain.
À suivre à la télé, à la radio, surtout sur France Inter. Le Tour de France, encore une étape pyrénéenne, 178 km 4 et une arrivée au sommet sur le col du Pontet. Vous le suivez pour nous. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour.
On va voir si le maillot jaune, le Slovène Pogacar, a des faiblesses aujourd'hui.
Et oui, parce qu'il l'a dit, c'est l'étape la plus difficile pour lui de ce Tour de France ici avec, vous en avez parlé, cette arrivée au col du Portet après 16 kilomètres d'ascension. Tout va se jouer dans les 65 derniers kilomètres de l'étape très dure avec Peyresourde, Val-de-Louron, col du Portet. Avant cela, pour le moment, 6 coureurs en tête, dont plusieurs Français, Dorian Godon, Anthony Perez, Maxime Chevalier sont à l'avant. Ils comptent plus de 5 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune.
Fanny Lechevestrier avec les moyens techniques de Julien Girard sur la route du Tour. Merci à tous les deux. Un Tour encore dans le froid et des feux d'artifice du 14 juillet douchés un peu partout en France à cause de la météo maussade et de la Covid. Dans le Puy-de-Dôme, le feu de Clermont-Ferrand est reporté au 27 août. Les artificiers sont inquiets. Ils redoutent des annulations en cascade à la dernière minute. Juliette Micheneau.
Faut que le gros nuage, il parte là-bas, qu'il passe pas là.
Entre deux averses, les artificiers s'activent sur le stade de Volvic.
Il nous reste à faire le câblage. Tout est bâché, tout est plastifié, donc on peut quand même tirer le feu d'artifice. Le gros souci pour nous, c'est le public.
C'est lui qui craint la pluie. Et le problème, c'est qu'en cas de doute sur la météo, les mairies s'appellent entre elles. Et généralement, quand une jette l'éponge, les autres suivent et annulent en cascade.
Sur une 12 ou 15 feux, je ne sais plus exactement, il nous en reste 3 pour ce soir. Et demain, à peu près pareil.
Et Justine Boyer, co-gérante de la société 2B événementiel, doit ensuite gérer le report de ces feux.
La gestion des artificiers, leur disponibilité, refaire les contrats de travail, ça va jusqu'aux camions de location, parce que voilà, on n'a pas autant de camions que de feux à tirer, donc il faut appeler les loueurs, louer, enlever la location, relouer, enfin, une belle gymnastique.
Avec aussi la crainte pour Hugo Bertrandon, l'autre gérant, que certaines mairies renoncent face aux nouvelles contraintes sanitaires.
On fait partie des secteurs S1 les plus touchés, donc voilà, on touche 10 000 euros par mois, mais c'est vraiment pas ce qu'on demande, on a envie de travailler. Ça devient très compliqué d'envisager un avenir, tout simplement.
Juliette Micheneau, France Bleu, pays d'Auvergne, la pluie, parlons-en, le point sur la météo de ce mercredi.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Attention aux pluies et aux crues, 6 départements en vigilance orange.
Oui, sur les régions du nord-est. Alors, on n'en a pas fini, en effet, avec ces pluies. Elles s'étendent des frontières du nord vers le nord-est, le Lyonnais, le nord des Alpes. Elles deviennent soutenues et parfois orageuses sur Champagne-Ardenne, sur la Lorraine, sur l'Alsace. Attention aux débordements de cours d'eau et aux inondations. Ce soir, ces pluies vont se renforcer encore et elles glisseront vers la Bourgogne et la Franche-Comté. Elles persisteront toute la journée de demain. Ailleurs, on a un ciel souvent encombré avec quelques averses, plus nombreuses quand même vers le Massif central, un petit peu d'espoir. Quelques rayons de soleil vont se dessiner. Ça va s'éclaircir davantage sur la Bretagne, la Basse-Normandie, la Vendée, jusqu'à la côte girondine. En Méditerranée, c'est du soleil, mais avec du vent. Et puis pour les températures, ça reste frais. 17 à 20 degrés à l'est. Ça monte un peu à l'ouest quand même. Début d'amélioration avec 20 à 24 degrés. Et puis 26 à 27 degrés en Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France, merci à vous. Dans quelques instants, quelle armée modernisée pour la France? Le chercheur Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, est avec nous pour en parler. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
Radio France présente le Concert de Paris.
L'Orchestre National de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France, dirigé par Simon Young, se retrouvent ce soir dès 21h pour un concert à vivre en direct sur France Inter et France 2.
Avec Pretty Yende,
Renaud Capuçon,
Clémentine Marguen,
Piotr Beccella,
Edwin Crosley-Mercer,
Alexandre Kantorov,
Raphaël Moreau,
Xenia Sidorova,
Ibrahim Malouf.
Avec le soutien de la Ville de Paris,
Affaires, Association Française d'Épargne et de Retraite,
Société Générale, partenaire de la musique partout en France,
et Bautissané, votre partenaire bien-être au quotidien.
France Inter aime
Bergman Island, le nouveau film de Mia Hansen-Love, en compétition officielle au Festival de Cannes.
I want to be with you. I never mentioned you to my girlfriend, but she's jealous of you.
Un couple de cinéastes s'installe pour écrire sur l'île suédoise de Faro où vécut Bergman. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent, la frontière entre la fiction et la réalité se brouille. Bergman Island, avec Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska et Anders Danielsson Lee, actuellement au cinéma, un film France Inter.
13h30 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Marion Loup.
4300 militaires à pied, 71 avions, 25 hélicoptères, 221 véhicules, 200 chevaux de la garde républicaine et zéro drone. L'armée qui a défilé ce 14 juillet sur et au-dessus des Champs-Élysées afficher un visage, disons, traditionnel, alors qu'on imaginait il y a peu une armée technologique et des conflits presque virtuels. Il semble avéré qu'on ne se passera pas d'hommes au front, ce qui n'empêche pas de devoir s'équiper en drone, notamment. Avec nous pour en parler, Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Le président de la République a confirmé hier soir la fin de l'opération Barkhane avec ses plus de 5000 soldats au Sahel. Mais nous continuerons d'agir, assure Emmanuel Macron. C'est le début d'un nouveau type de guerre, une sorte de guerre à distance?
Oui, en tout cas, c'est sûr qu'on assiste aujourd'hui à la fin d'un cycle, de plusieurs cycles d'ailleurs stratégiques, depuis la fin de la guerre froide dans les années 90, et puis un cycle de lutte contre le terrorisme avec les 20 ans des attentats du 11 septembre que nous allons bientôt commémorer. Et puis, dans le cas de la France, ce cycle d'intervention militaire qui s'est accéléré à partir du début des années 2010, en Libye, on se souvient, en zone syro-irakienne. Et puis au Mali, et aujourd'hui il s'agit de se préparer à de nouveaux types d'engagements avec de nouvelles menaces, tout en continuant à faire front aux anciennes, et donc forcément à faire des arbitrages, à rééquilibrer un petit peu les forces.
Est-ce qu'il y a un risque de situation un peu à l'américaine, un peu ce qu'on voit en Afghanistan aujourd'hui, où la situation se tend au fur et à mesure que les troupes se retirent?
Alors je pense que justement la France, pour ce qui est du Mali et de la zone sahélo-saharienne, a fait le choix de ne pas retirer ses troupes de manière aussi brutale que les Américains sont en train de le faire en Afghanistan, pour éviter précisément ce type d'effet de balancier. Et donc la manière dont les annonces présidentielles qui ont été faites indiquent quand même un retrait qui sera extrêmement progressif et qui sera plus une reconfiguration qu'un retrait. Avec vraisemblablement le maintien de moyens importants sur place, dans le champ des forces spéciales, dans le champ des drones, justement.
À peu près 2500 personnes.
Oui, c'est ça. Donc
la moitié des personnels militaires d'aujourd'hui.
Voilà, ce qu'il faut bien concevoir, c'est ce qu'on fera plus au Mali demain. Ça sera de grandes opérations unilatérales sur le territoire malien de chasse aux terroristes avec des groupements armés tactiques qui sont déployées seules. Donc ce qu'on va continuer à faire, en revanche, c'est de la formation des militaires, des frappes, des actions de forces spéciales, des raids ciblés, et puis sans doute de ce qu'on appelle de l'accompagnement au combat, c'est-à-dire des actions vraiment mixtes au plus près des forces locales.
Et du renseignement par drone, a priori, en tout cas c'est ce que laisse entendre le chef d'état-major des armées?
Absolument, le renseignement reste la base, on va dire, de toute opération militaire, particulièrement de la lutte contre le terrorisme, puisque la lutte est contre des adversaires qui, par définition, sont clandestins, se cachent, et donc finalement l'enjeu est plus de pouvoir les trouver que de pouvoir les éliminer en tant que tels.
Est-ce qu'on sait où ils vont aller aujourd'hui, ces soldats français qui vont repartir du Sahel ?
Alors, les masses dégagées, donc les 2500 opérateurs qui seront pu déployer à horizon 2023 au Sahel, ils vont venir revenir dans leurs unités, réinvestir d'une certaine manière un certain nombre de champs. D'abord le champ de l'entraînement, de la préparation opérationnelle, qui avait beaucoup décliné du fait d'une surmobilisation à la fois sur le territoire national avec Sentinelle, mais aussi en opération extérieure. Et puis pour préparer un certain nombre de grands exercices, on a parlé de l'exercice Orion notamment.
On en reparlera.
Horizon 2023, qui va mobiliser beaucoup de monde, notamment dans les forces terrestres, mais pas uniquement, et puis pour redéfinir un petit peu une posture militaire française plus musclée aux marges de l'Europe, aux approches directement à l'est, au sud de l'Europe, et puis peut-être aussi se préparer à des défis plus lointains comme celui de l'Indo-Pacifique, qui est cette nouvelle grande région stratégique identifiée qui vise notamment à faire pièce à la Chine.
Alors on a une question, Elie Tenenbaum, de Patrice au standard. Bonjour Patrice.
Ah oui, bonjour.
Vous avez une question pour Elie Tenenbaum?
Oui, voilà. Que ce soit en Afghanistan ou en Afrique, les pays occidentaux se désengagent petit à petit du cœur des conflits où naît le terrorisme. J'en viens à me demander si ce n'est pas une erreur de stratégie. Je pense que la France ne peut rien faire toute seule. Peut-être qu'il faudrait quand même renforcer l'unité européenne, ça c'est une grosse lacune actuellement. Il faut jongler entre une lutte légitime pour protéger les populations locales et nous-mêmes, tout en étant acceptés par les mêmes populations, avec la problématique des erreurs de frappe sur les civils. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? Si on prend l'exemple des talibans qui sont ravis du départ des Américains, on peut craindre que les terroristes africains soient également ravis.
La réponse du directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI.
Oui, alors évidemment, encore une fois, il s'agit bien de faire une réarticulation des opérations accepter l'idée que la guerre contre le terrorisme en tant que telle, donc que les grosses opérations militaires de lutte contre le terrorisme sont une phase qui doit se terminer parce qu'il y a encore une fois d'autres enjeux, et en même temps ne pas sous-estimer une menace qui est bel et bien là, qui continue à menacer peut-être moins directement en termes de projection, de violence vers nos territoires nationaux, encore que ça continue à être le cas, mais plus d'une manière idéologique et décentralisée que à travers les organisations en tant que telles contre lesquelles on lutte en Afrique ou en Asie centrale, en Afghanistan et ailleurs, et puis éviter un effondrement trop violent qui pourrait constituer une forme de choc stratégique en tant que tel. Et donc pour ça, il s'agit d'équilibrer la réponse. Évidemment, on a des adversaires qui cherchent autant que possible à bénéficier de toutes les erreurs qui peuvent être faites, des erreurs tactiques sur des frappes qui pourraient malheureusement toucher des civils, mais également des erreurs politiques et stratégiques sur de soutien à des régimes qui en fait ne sont pas appréciés par les populations, voire constituent une cause du problème. On l'a vu évidemment en zone syro-irakienne à l'époque avec le régime de Bachar al-Assad qui n'avait pas été soutenu par nous mais qui était très largement à l'origine de la montée en puissance des groupes terroristes. Et on peut se poser la question sur des pays comme l'Afghanistan ou même certains pays en Afrique qui contribuent à renforcer la menace finalement par effet répulsif plus qu'à y répondre.
Si on revient, Elie Tenenbaum, à cette question d'une guerre un petit peu à distance, en tout cas dans certains endroits, et la question de l'usage des drones par l'armée, ça a fait l'objet, la question des drones, d'un rapport du Sénat récemment. La France n'est pas suffisamment préparée, disent les sénateurs. C'est votre avis aussi ?
Ça a même fait l'objet de deux rapports, puisqu'il y a eu un rapport à l'Assemblée nationale et un rapport du Sénat
au
même moment sur le même sujet, mais qui concluait dans les deux cas effectivement un retard, mais ça qu'on connaît malheureusement bien, qui a été pris par la France dans le cas des drones à tous les niveaux, et ce depuis longtemps, retard qu'on peine aujourd'hui à rattraper, qui s'est traduit par la décision d'acheter sur étagère du matériel américain, par exemple dans le cas des drones de niveau opératif, les drones Reaper qu'on a au Mali, qui sont les drones armés.
C'est quoi un drone opératif?
Alors le drone Reaper est un drone au départ fait surtout du renseignement. Donc ce sont des avions pilotés à distance qui peuvent voler en fonction de leur amplitude pendant quelques heures, voire 24 heures, voire un peu plus encore pour les plus grands drones. Et qui peuvent être éventuellement armés de missiles ou de bombes guidées qui peuvent permettre de traiter les cibles au moment où ils les voient. Et donc ça vous donne une permanence dans la surveillance d'un théâtre que ne peuvent pas avoir des avions de chasse qui évidemment ne font que passer, on va dire, au-dessus d'un théâtre. Donc ça, ce sont des capacités importantes qui se sont développées en fait depuis les années 80-90. Et sur lesquels la France a eu du mal à prendre le tournant, à la fois par des choix politiques qui ont été faits, par des combinaisons industrielles qui ont été mauvaises. Et donc, on a préféré à un moment acheter des drones américains, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à produire des drones français. Alors, aujourd'hui, on a la perspective au milieu des années 2020 d'avoir vers 2028 d'avoir un Eurodrone Euromale donc qui devrait être capable de remplacer cette gamme de drones Reaper, mais qui devrait pas avoir non plus des capacités singulièrement nouvelles. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres catégories de drones. Vous avez des tout petits drones qui peuvent servir pour les forces terrestres dans des combats en zone urbaine, par exemple, pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la rue, de l'autre côté d'un immeuble qui peut faire obstacle. Vous avez des drones beaucoup plus futuristes qui sont des drones de combat mais qui auraient une partie d'autonomie. Là, pour l'instant, aujourd'hui, la plupart des drones dont on parle sont des drones qui sont pilotés à distance. Ouais. Donc, qui sont bien pilotés. Simplement, le pilote n'est pas dans le drone, il est dans une cellule, une nacelle de navigation qui est à distance. Demain, on aura certainement un enjeu d'autonomisation de tout ou partie du pilotage des drones. Et ça, c'est un vrai défi pour l'avenir. C'est notamment le défi du système de combat aérien futur qui devrait avoir des drones de combat capables de faire notamment du combat aérien. Et ça, pour l'instant, on est sur des technologies qui ne sont pas du tout matures.
Donc l'armée va chercher des programmateurs informatiques.
Pardon ?
L'armée va chercher des programmateurs informatiques.
Elle en cherche déjà beaucoup, mais pas que des programmateurs informatiques, mais évidemment des spécialistes en intelligence artificielle, en algorithmes, mais aussi des nouvelles compétences de navigation, d'aérodynamique. Enfin, vous avez tout un tas d'enjeux d'optronique, d'avionique qui sont en jeu dans ces nouveaux systèmes d'armes.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'armée préfère finalement changer, renouveler tous ses blindés plutôt que d'investir dans la fabrication et dans l'usage des drones ?
Alors non, les options se présentent pas forcément comme ça, parce que vous avez des lignes budgétaires qui sont propres à chaque armée, avec l'armée de l'air et de l'espace, évidemment, qui doit investir particulièrement sur le renouvellement de sa flotte d'avions de combat, mais avec dedans la question des drones, de sa 33e escadre, donc de renseignement notamment, qui va être concerné principalement les drones à l'horizon 2025, qui est celui de l'horizon budgétaire actuel. Et puis vous avez l'enjeu pour les forces terrestres, pour l'armée de terre, qui va elle aussi opérer des drones. On estime qu'à horizon 2025, l'armée de terre aura à elle seule plus de 3000 drones, qui seront essentiellement des petits drones, mais pour servir de renseignement, d'aide à la frappe d'artillerie, etc. sur le terrain. Mais aussi le renouvellement, et ça c'est un grand enjeu, de ce qu'on appelle le segment lourd. C'est-à-dire qu'on a des forces terrestres qui, pendant longtemps, pendant 30 ans, se sont concentrées sur des opérations, comme on l'a dit, de lutte contre le terrorisme, qui font de la projection de puissance vers des théâtres avec des adversaires essentiellement asymétriques, qui avaient moins de moyens que nous. Et demain, vous allez être confrontés à des adversaires qui, eux, ont des moyens plus importants. Et là, il va vous falloir, justement, des chars de combat, des capacités de blinder et de capacités d'encaisse face à une puissance de feu importante, et donc ça c'est un enjeu.
Si je vous entends bien, la modernisation est en marche. On parlait quand même de l'opération Orion tout à l'heure. Il y a des opérations je dirais traditionnelles sur des conflits terrestres réputés, enfin, qu'on appelle de haute intensité contre des États. C'est un entraînement sur ce sujet-là.
Absolument.
Orion.
Il y a moins d'un an, vous avez eu par exemple un conflit au Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui a impliqué des drones, on en parlait, de la frappe à distance, menace, mais aussi des chars de combat, de la frappe d'artillerie, des lance-roquettes, des unités d'infanterie motorisées ou à pied qui sont venues prendre un territoire. Et aujourd'hui et demain, évidemment, les forces terrestres françaises et les forces armées en France en général doivent se préparer à ça. Elles sont déployées, par exemple, dans le cadre de l'opération Lynx, dans les États baltes, face à la Russie. C'est une mission, on va dire, à la fois de dissuasion, mais de gestion de l'escalade, interétatique, classique d'une certaine manière, mais c'est un enjeu de demain.
Très rapidement, Elie Tenenbaum, est-ce qu'il y a vraiment des pays qui pourraient vouloir rentrer en combat, en guerre avec la France aujourd'hui?
Alors, évidemment, vous avez la dissuasion nucléaire française qui, encore aujourd'hui, est le parapluie essentiel, l'assurance vie pour les intérêts vitaux de la France. En revanche, vous avez toute une gamme de possibilités d'agresser soit un partenaire de la France, soit des intérêts non vitaux de la France, en fonction de la manière dont ceux-ci sont définis, qui pourraient impliquer une réponse militaire de haute intensité, sans pour autant impliquer la dissuasion nucléaire.
Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, co-auteur du livre La guerre de 20 ans chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'être venu sur France Inter.
France Inter, le 13-14.
Il est 2h moins le quart sur Inter. À venir, la suite de notre semaine avec la brigade fluviale de Paris. Aujourd'hui, ces policiers de l'eau jouent les experts scientifiques. De l'eau et bientôt la palme, direction le festival de Cannes. Ensuite avec notre monsieur cinéma. Bonjour Laurent Delmas, quel temps sur la croisette ?
Bonjour Marion Beccan, aujourd'hui c'est trois fois Mathieu Amalric, cinq films fruits et légumes par jour et un Yves Montand unique.
Eh ben bon appétit, rendez-vous juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
À votre micro aujourd'hui, le temps d'une chanson, l'actrice Sarah Stern, que l'on a pu voir notamment dans Les Tuches ou dans la série Baron Noir et que l'on retrouve dans le nouveau film de Julien Rambaldi.
Aux côtés, entre autres, de Léa Drucker, de Josiane Balasco, de Nicolas Maury, c'est la vie. C'est le titre de cette comédie en salle le 28 juillet dans laquelle Sarah Stern joue le rôle d'une jeune femme qui attend, comme on dit, un heureux événement.
C'est un film sur un sujet, ma foi, tout à fait universel, le moment de la naissance, et donc c'est les destins croisés, les trajectoires de plusieurs femmes qui se retrouvent toutes à l'hôpital pour accoucher.
Bah ça y est, vous êtes enceinte.
Je suis enceinte.
Excusez-moi.
Reviens mon mari, je vais accoucher. Ce qui est assez drôle par rapport au personnage et au sujet du film, c'est que c'était un peu prémonitoire pour ce qui allait m'arriver dans la vie. Et donc c'était une petite répétition avant de devenir moi-même mère.
Titre du chanteur de soul américain Al Green que Sarah Stern a choisi de nous faire écouter, Tired of Being Alone.
Une chanson du début des années 70 que Sarah Stern a découverte au milieu des années 90. Bah oui, elle est née en 84. Et chez elle, on écoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de musique.
En fait, mon père est très fanatique de soul music et donc m'a initié à cette musique assez jeune. Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Redding, Curtis Mayfield, Marvin Gaye, Al Green. C'est à la fois des chansons qui sont des prières mais qui parlent de la vie, qui parlent de sexe, qui parlent d'amour. C'est la rencontre du profane et du sacré et c'est une musique qui m'aide à vivre. Voilà, c'est vraiment la musique que j'aime. Et puis cette chanson, donc, elle est particulière, je trouve que c'est une chanson de dépit, de désespoir amoureux, mais qui donne envie de danser. Quand j'ai compris les paroles, j'étais presque surprise. Parce que pour moi, c'était quelque chose de très lumineux.
Elle nous dit quoi concrètement, cette chanson ?
Elle dit « reviens ». Elle dit « reviens-moi ». Je suis fatiguée d'être seule. J'en ai marre d'être tout seule.
Yeah.
en manque de la femme qu'il aime. Et je me rappelle l'avoir écouté en boucle lors de ma première rupture. Et cela va sans dire que c'était la plus douloureuse. Les premières fois sont toujours les plus belles et les plus douloureuses.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
Première rupture, j'avais 16 ans. Mais d'ailleurs, c'est précieux dans ces moments d'avoir soit ces textes, soit ces chansons, soit ces films qui aident à traverser ces épreuves-là.
Ça avait été une longue histoire ?
Plusieurs années. J'ai un souvenir très tendre de cette histoire, mais c'était aussi très violent. If you love me like you say you do, you
see baby, I've been thinking about. Ça vous plonge dans quel état quand vous entendez cette chanson-là aujourd'hui ?
Ben, je pense que ça me rend un peu nostalgique, parce qu'elle s'apparente à des souvenirs d'enfance, parce que c'est donc mon père qui m'a fait découvrir cette chanson. Et paradoxalement, donc, y a une grande force vitale dans cette chanson. Elle enrobe, elle donne envie de danser, d'aimer. Je vais la faire écouter à mon fils surtout maintenant.
Il a quel âge ?
1 an.
C'est l'âge ?
C'est l'âge !
Of Being Alone, Al Green, c'était donc le choix de l'actrice Sarah Stern dont vous nous redonnez l'actualité, Frédéric.
Elle est à l'affiche de C'est la vie, la nouvelle comédie de Julien Rambaldi, en salle dans 2 semaines, le 28 juillet.
Et vous, on vous retrouve demain, C'est la vie.
À demain,
Frédéric. Une semaine dans leur vie, nouvelle escale aujourd'hui avec la brigade fluviale de Paris. Ces policiers sont responsables de la sécurité sur la Seine et ses canaux. Mais pas seulement, ils ont aussi des missions de police technique et scientifique à la rencontre des experts, les pieds dans l'eau. Reportage d'Ariane Grissel avec les moyens techniques de Sandrine Malon.
C'est un crucifix, des menottes.
C'est une mitrailleuse.
Des casques... Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale.
Les casques allemands en 1915. Tout ça, c'est ce qu'on trouve dans la Seine. Munitions, armes. Vous voyez qu'on trouve quand même particulièrement beaucoup d'armes.
Il y a un côté archéologique, presque.
C'est assez archéologique, ouais. Et ça, c'est du vrai or. Ça, c'est des lingots d'or.
Non, je déconne.
En fait, il y a une mallette qui a été trouvée un jour, remplie de lingots comme ça. Et en fait, au départ, tout le monde pensait que c'était de l'or. Vous imaginez le truc. En fait, c'était un tournage qui avait mal tourné, ils avaient perdu la valise. Et en fait, c'était du plomb, enfin, ça valait rien. Je suis le chef Leclerc Nicolas, brigadier chef à la brigade fluviale de Paris. Je suis arrivé à la brigade fluviale en 2004. Quand on est arrivé, il n'y avait pas toute cette technicité de police technique et scientifique. Et au fur et à mesure, on s'est mis le pied à l'étrier. On a restitué vraiment ce qui se passait au fond, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on est les yeux du magistrat ou de l'enquêteur et que lui, il voit pas ce qu'il y a sous l'eau. Et donc, en fait, on est un service d'assistance concernant les services de police judiciaire, c'est-à-dire que une personne disparue, une arme qu'on doit trouver suite à un meurtre, un assassinat, il peut y avoir des recherches de véhicules, il peut y avoir des recherches d'indices. Ça peut être un téléphone portable, ça peut être un ordinateur portable, ça peut être un coffre-fort qui a été volé, qui a été jeté dans l'eau et où il y a des traces et indices à exploiter. Donc en fait, ça a pas l'air comme ça, mais l'eau est un endroit où les gens se disent que ça peut disparaître. Et donc il y a pas mal de choses à chercher, il y a pas mal de missions sur lesquelles on est appelé. Donc on va définir une zone de recherche qu'on va millimétrer, enfin qu'on va métrer et qu'on va fouiller de fond en comble. Et après, si on trouve pas, on déplace ce dispositif. Ça peut être 2, 3, 4 mois de recherche pour un téléphone portable, une arme, un couteau, mais ça se retrouve.
Au-delà de la recherche d'objets à des fins d'enquête, il vous arrive aussi d'intervenir sur des corps qu'on retrouve dans la Seine. Comment ça se passe dans ces cas-là ?
Exactement la même chose que la police technique et scientifique, les experts que vous voyez à la télé. On va mettre la même chose en place sous l'eau. C'est-à-dire qu'on va faire des photos, ce qu'on appelle fixer la scène de crime. Tout ce qui peut avoir à trait à l'enquête ou au corps, on va relever, on va faire des photos, on va mettre ça dans le rapport. Et dès qu'on arrive sur le corps, on va vraiment décrire ce que l'on voit pour perdre le moins d'indices possible.
Alors Norbert Bougnier, donc je suis brigadier chef à la brigade fluviale également. Donc moi je suis arrivé en avril 2007. Moi j'étais donc dans la police auparavant à Champigny-sur-Marne et un jour sur une intervention, J'ai côtoyé du personnel de la brigade fluviale et je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient. Je leur ai posé quelques questions et c'est là que j'ai appris que la brigade fluviale existait. Donc j'ai postulé pour venir ici.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous retrouvez enfin l'objet qu'on vous a demandé d'aller chercher ?
Ah bah pareil, une satisfaction personnelle donc, du travail bien fait, travail accompli. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé à côté de l'objet si vraiment on a eu les bonnes infos auparavant. Et puis, pour ensuite le déroulé de l'enquête, ça peut faire qu'avancer l'enquête.
Il n'y a pas si longtemps, sur une première formation de plongeur police nationale, le médecin légiste qui s'est déplacé a reconnu la qualité du travail effectué par les plongeurs de la brigade fluviale, sachant que les plongeurs de la brigade fluviale, donc plongeurs police nationale, sont les seuls sur le territoire national à avoir ces compétences. Les gendarmes ont ce type de compétences. En police nationale, on est les meilleurs. Et les seuls. D'un côté, c'est pas compliqué.
Voilà. Une semaine dans la vie de la brigade fluviale de Paris. Reportage d'Ariane Grissel avec Sandrine Malon. Réalisation Juliette Gou. Demain, les policiers de la brigade fluviale font aussi la circulation sur l'eau. Vous verrez.
France Inter. Le 13-14.
Jour férié ou pas, le cinéma est toujours là. C'est le moment de retrouver Laurent Delmas et son point quotidien sur la météo cannoise. Laurent, quel temps aujourd'hui ?
Ben alors Marion, petite chute à 26 degrés, désolé, hein, sur les plages de Cannes, mais allez, rien de grave. Et la météo du festival a aujourd'hui les couleurs de Mathieu Amalric, figurez-vous, présent dans le film de Wes Anderson en compétition, mais sur lequel on préfère jeter le voile pudique de la déception. L'acteur tient le rôle principal du nouveau film très enchanté et très enchanteur des frères Larieux, intitulé Tralala. Il est ici présenté en séance spéciale, hors compétition donc. Mais avec ses chansons concoctées par Philippe, Catherine et Bertrand Belin, beau duo, et ses allures à la demi, il aurait bien mérité une palme du charme à l'état brut. Amalric, tout en barbe touffue, y entraîne avec allégresse une joyeuse bande, composée entre autres de Josiane Balasco et Mélanie Thierry. On en redemande, Marion. Amalric à Cannes, c'est aussi pour lui l'occasion de présenter son 7e film en tant que cinéaste. Il revient en force avec Serre-moi fort. C'est un coup de maître, présenté dans la nouvelle section créée par Thierry Frémaux, Cannes Première. Vous pourrez le découvrir en salle le 8 septembre prochain. Ben oui, le découvrir, car il est absolument impossible et vraiment interdit de trop en dire, sans dévoiler le cœur secret, le cœur battant et bouleversant de ce film, dont le synopsis tient en une seule phrase. Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va. Mystère, hein ? Je ne vous dis rien de plus, sinon que serre-moi fort, à la grâce, et que même ici, ben c'est pas si fréquent.
Oui, Laurent, sur le plan alimentaire, votre régime est cannois et non crétois, hein ?
Exactement, parce que le régime cannois auquel je me plie bien volontiers, ben c'est 5 films par jour. Fruits et légumes en plus, il reste du temps. Hier par exemple, hein, ben ma journée a débuté avec une splendide adaptation du récit de Didier Héribon, Retour à Reims, dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs, et réalisé par Jean-Gabriel Perriot avec uniquement des images d'archives. Très étonnant. Vient ensuite à la semaine de la critique, Bruno Rédal, le premier film de Vincent Leport, soit le terrifiant portrait d'un assassin de 17 ans, avec une rigueur que n'aurait pas renié Robert Bresson. Ensuite, destination l'Iran pour suivre la nouvelle proposition de l'Iranien Asghar Farhadi, un héros qui concourt lui pour la Palme d'Or avec cette nouvelle immersion dans les arcanes d'un pays et d'une conscience. Pause alpestre après, en découvrant un documentaire singulier sur, oui tenez-vous bien, une vache de compétition nommée Vedette. C'est aussi le nom de ce film réalisé par Claudine Bory et Patrice Chagnard est présenté à l'Acide. Enfin, aux alentours de 22h, l'ultime film de la journée, et en compétition s'il vous plaît, Titane de Julia Ducournau, film de genre comme on dit désormais, vu pour ma part au bord d'une nausée mêlée d'indifférence triste, pas forcément le mieux pour faire de beaux rêves ensuite. Ben voilà, c'était ma journée d'hier, Marion.
Et histoire d'égayer un peu les esprits, notre petit air de musique du jour, Laurent.
Oui, voilà, on a pu découvrir hier dans la section Cannes Classique le nouveau documentaire réalisé par Yves Geland et coécrit avec Vincent Josse. Oui, oui, le nôtre, oui. Notre Vincent Josse, oui. Leur montant et nous, séduits comme eux-mêmes l'ont été par l'acteur-chanteur. Hein. Un portrait aimé, fondé sur une profusion d'archives épatantes. Alors pour finir, un peu de montant, hein, avec une chanson de film qui s'impose ici à Cannes, Ciné qui chante, extrait de la BO du dernier film de Jacques Demy. Trois places pour le 26, on y va.
S'il est qui danse, s'il est qui chante, s'il est ta bonne humeur m'enchante. S'il est rieur, s'il est bonheur, cinématographe à toute heure permanent. S'il est cynique, s'il est moqueur, cinéma violent pour bagarreur. Ceci n'est là, mais bien égal. Moi, ce que je préfère, c'est le musical.
Ciné qui chante, ça me rappelle une émission qu'on a entendue plusieurs étés de suite sur France Inter. Merci de nous avoir fait écouter ce morceau, Laurent. Et rendez-vous demain sur La Croisette. Dans un instant, sur France Inter, c'est l'heure de la sieste. Ça tombe bien, Ali Rebéi vous propose de réécouter un grand bien vous fasse consacré à cet art trop oublié.